Il est 8h09 sur BFM Business. On est donc depuis Aix-en-Provence pour ces rencontres économiques dont le thème est naviguer dans un monde sans repères. Et notre invité, c'est Isabelle Mateos Ilago. Bonjour, vous êtes chef économiste de BNP Paribas. Quand on parle de monde sans repères, on va regarder ensemble où en est l'économie britannique. Là, c'est particulièrement parlant. On a un changement de Premier ministre avec un nouveau Premier ministre qui va arriver à l'été. On a une économie qui, quand même, depuis le Brexit, a eu beaucoup de difficultés. Mais on a quand même une société britannique qui continue de plébisciter Nigel Farage ou des profils comme ça. Quand vous regardez l'économie britannique, après 10 ans de Brexit aujourd'hui, vous vous dites, il n'aurait jamais dû faire ça?
Alors, très franchement, d'abord bonjour. Ça, je me le suis dit depuis le départ. Je crois que d'un point de vue purement économique, c'était clair que ça n'allait pas être un grand succès. Je crois que malheureusement, une majorité de la population avait cru dans les espoirs de lendemain radieux qui lui étaient vendus. Et naturellement, ces espoirs ont été déçus. Du coup, la population se dit les dirigeants politiques qui se sont succédés du parti conservateur d'abord, du parti travailliste ensuite, n'ont pas tenu les promesses qui nous avaient été faites par d'autres, mais c'est pas grave. Du coup, on n'est pas heureux et voilà. C'est vrai qu'il y a du coup beaucoup d'appétence pour aller voir un parti qui n'a pas encore été essayé.
Et quand on regarde aujourd'hui les indicateurs économiques, dans quel état est l'économie britannique?
Écoutez, en réalité, je crois qu'il faut pas non plus dramatiser. C'est vrai que l'économie britannique a moins bien performé que avant le Brexit. C'est vrai qu'elle a aussi, à différents égards, sous-performé l'économie de la zone euro, notamment en termes de gains de productivité, en termes de croissance des exportations, par exemple. Mais si on compare, par exemple, à la France, en réalité, les choses sont pas si différentes que ça. La trajectoire de la dette publique a été comparable à celle de la France, la trajectoire de la productivité aussi. Donc c'est vrai que ça a été une sous-performance par rapport aux attentes qui ont été créées et une sous-performance par rapport à l'ensemble de la zone euro. D'un autre côté, c'est pas non plus une expérience catastrophique. Et sur la première moitié sur les 6 derniers mois, l'économie britannique a en fait cru même plus vite qu'un certain nombre des pays de la zone euro.
Et c'est quoi aujourd'hui les relais de croissance potentiels? Parce que vous dites on est dans une situation finalement similaire par rapport à la France, mais nous on a la zone euro, on a les Allemands, on se soutient mutuellement, ce qui fait qu'on a peut-être des taux obligataires qui sont plus bas que si on était tout seul. Comment eux, c'est quoi la réserve, la marge de manœuvre qu'ils ont?
Alors ça, c'est une grosse différence. Effectivement, la situation dont les marchés regardent la situation budgétaire de la France et du Royaume-Uni, la France est dans la zone euro, le Royaume-Uni n'y est pas, et donc il y a un écart de taux de l'ordre de 100 points de base. Ça fait beaucoup de services de la dette en plus du côté du Royaume-Uni et également beaucoup plus de volatilité. Après, les moteurs de croissance, l'économie du Royaume-Uni est encore plus une économie de services que l'économie française. Et cette économie de services s'est encore davantage renforcée, je dirais, à la suite du Brexit, alors que c'est vraiment l'industrie, avec tous les freins rencontrés par le commerce manufacturier, qui est davantage à la peine. Alors que les services, eux, ont quand même réussi à continuer à s'étendre.
Mais avec Isabelle, une volonté comme chez nous de réindustrialiser ou pas du tout? C'est-à-dire qu'on se dit, on continue sur les services financiers, on met le paquet sur les GAFA, sur les banques, ou il y a ce genre de plan comme on a chez nous?
Alors, il y a un vrai désir de réindustrialisation, mais très focalisé sur l'innovation, l'intelligence artificielle, les technologies du futur, le domaine de la santé également, la biotech. Donc, il y a un désir de réindustrialisation, mais qui n'est pas nostalgique, qui est vraiment tourné vers l'avenir. Pour l'instant, ça reste plus au stade du désir que de la réalité, mais c'est vers ça que tendent les efforts.
Vous dites que nous, en France, on a une réindustrialisation nostalgique?
Je pense qu'il y a pas mal de nostalgie dans ce qu'on entend autour de l'industrie, mais pas uniquement. Et ce qu'on a entendu hier, ici même, de la part du Premier ministre, mettait beaucoup l'accent, au contraire, sur l'intelligence artificielle et les technologies du futur. Donc, il y a les deux.
Quand on regarde l'économie européenne, côté Union européenne, on s'est fait peur quand même un peu avec les questions d'inflation. Là, elle est redescendue. En France, on est reparti sous les 2%. Il y a eu cette hausse des taux de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde s'est rejustifiée hier dans les Échos en disant que c'était une bonne chose. On a bien fait de faire ça. Comment vous regardez cette position? Est-ce qu'il y a eu un problème de timing dans la décision de la Banque Centrale Européenne? Est-ce qu'elle est allée trop tôt? En même temps, on peut pas inventer ce qui va se passer en Iran quelques jours avant, mais est-ce qu'il y a eu une erreur là?
Non, je ne crois pas du tout. Moi, j'adhère entièrement à l'explication donnée par Christine Lagarde et tous les membres du Conseil de politique monétaire, qui était que au moment où ils ont dû prendre la décision, donc au mois de juin, naturellement, on ne savait pas à quelle échéance la situation dans le Golfe allait se résoudre. Néanmoins, dans tous les scénarios concoctés par les services de la BCE et de l'eurosystème, on voyait une inflation qui atteignait 3% et qui mettait plus de 2 ans à revenir à la cible. Même dans le scénario le plus favorable, dans lequel le conflit était résolu rapidement et les prix de l'énergie baissaient.
Donc il fallait taper les anticipations.
Donc il fallait agir pour ancrer les anticipations, éviter aussi que les taux obligataires ne décollent encore davantage, ce qui aurait été très pénalisant pour toute l'économie européenne. Donc ça, je pense qu'ils ont fait exactement ce qu'il fallait. Et par ailleurs, je pense qu'ils ont également dit ce qu'il fallait un peu plus tôt dans la semaine, quand ils étaient réunis à Sintra, au Portugal, oui, pour le forum de la BCE, où à peu près tous les membres du Conseil de politique monétaire qui se sont exprimés ont dit... Il n'est pas certain qu'on ait besoin de faire davantage. Ce qui était déjà un message très différent de ce qu'on avait pu entendre en juin.
C'est pas les 3 hausses de taux attendues d'ici la fin de l'année.
Et peut-être même pas 2 non plus.
Oui.
Mais cela étant, il faut rester prudent. L'inflation ne va pas tomber en ligne droite. Les prix de l'énergie ne vont pas continuer à décroître comme ça. Il y a même un certain nombre de raisons de penser qui pourraient remonter un petit peu entre maintenant et la fin de l'année. Il y a potentiellement de l'inflation dans les tuyaux venant de la nourriture, de l'alimentation. Il y a d'autres chocs qui peuvent se produire, donc je pense que la BCE a raison de rester prudente, mais en même temps, c'est bien qu'ils aient ouvert la porte à ne pas faire davantage.
0,25, ça n'abîme pas l'économie européenne.
Non.
On n'a pas vu d'ailleurs d'impact, c'est-à-dire que c'est suffisamment petit pour passer tranquillement.
Je crois, et vraiment, je pense qu'il faut voir les mouvements de taux de la BCE en conjonction avec les variations de taux obligataires. Et je crois vraiment que si la BCE n'avait pas fait ça, il y avait un risque d'envoler des taux obligataires qui auraient été infiniment pires pour l'économie.
Je voudrais juste qu'on se dise un mot de nos voisins, entre l'Allemagne qui prépare aussi un plan d'économie, qui réfléchit à allonger l'âge de la retraite, et l'Espagne qui a cette croissance un peu flamboyante. Alors peut-être on regarde pas ce qui a été fait les 10 années d'avant pour arriver là. C'est quoi pour vous le bon modèle ? Faut tirer vers les Allemands ou faut tirer vers les Espagnols ?
Alors, je dirais qu'il faut s'inspirer des deux, mais bon, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. Les principaux moteurs de la croissance en Espagne, c'est l'immigration, donc forte croissance, ouais, de la population active.
La moitié de la croissance vient de l'immigration, dit Pedro
Exactement.
Sanchez.
Donc, est-ce qu'on a envie de faire ça chez nous ? C'est un choix politique, mais ça... Bon,
en tout cas, ça booste la croissance.
Compliqué. L'Espagne est aussi un modèle à énergie peu chère. Ça, on l'a. Et on peut le faire encore davantage. L'Allemagne, alors là, au contraire, la démographie est plutôt catastrophique. Mais ils font des réformes structurelles. Et là, tout le monde attendait un peu le chancelier Merz là-dessus. Jusqu'à maintenant, ça avait été plutôt le levier de la dépense publique, enfin de l'investissement public. Alors ça, en France, on n'a pas du tout la marge de manœuvre pour le faire. Mais effectivement, réforme très ambitieuse du système de retraite, de l'âge de départ à la retraite qui vient d'être validé par le Conseil des ministres. Et puis, dans la foulée, des réformes également des prestations sociales pour inciter davantage les gens à revenir sur le marché du travail. Une réforme fiscale également. Donc, finalement, ce levier des réformes structurelles, alors qu'on croyait l'Allemagne complètement bloquée, il avance. Et je crois que c'est vraiment un message pour la France. On ne peut pas se permettre de ne pas avancer.